la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu, c'est une émission qui vous emmène dans la révélation de la parole de Dieu afin de vous restaurer et vous ramener dans le plan de Dieu pour votre vie. La puissance de la parole de Dieu, une émission qui vous communique la vie sur tous les plans. Elle est animée par le prophète Adankon Emmanuel de la Mission internationale pour la restauration humaine et l'évangélisation. C'est tous les lundis de 21h à 21h30. La puissance de la parole de Dieu, que Dieu bénisse votre écoute.
Chers auditeurs, auditrices de la radio, nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. N'importe où vous êtes actuellement, vous êtes sur l'émission La puissance de la parole de Dieu. Cette émission est une émission de communication de la parole de vie, une émission de puissance, de guérison, de restauration et du succès dans votre vie. Vous devez vous laisser à cette parole qui est la parole de Dieu, cette parole par laquelle toutes choses existent. Il n'y a pas un autre moyen pour amener l'homme dans la victoire, dans le succès. Nous allons commencer une série d'enseignements. La série d'enseignements que nous venons démarrer ce jour est intitulée « En quoi réside le succès du croyant en Christ ?» En quoi réside le succès du croyant en Christ ? Chers auditeurs et auditrices, chers frères et sœurs en Christ, vous êtes d'accord avec moi. Le succès, c'est le bon résultat obtenu par quelqu'un, soit dans ce qu'il fait. Et en un mot, le chrétien est appelé à réussir dans tout ce qu'il fait. Donc, le croyant en Christ est un homme de succès. C'est-à-dire, un croyant en Christ est appelé à réussir, c'est-à-dire à obtenir de bons résultats, à pouvoir à avoir une issue satisfaisante, heureuse. Et bien aimé dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, lorsque nous regardons à ceux qui disent qu'ils sont des chrétiens, qui sont des enfants de Dieu, à tous ceux-là qui s'en vont à l'église, et quand on regarde à leur vie, on se pose la question de savoir si réellement ces hommes-là et ces femmes-là, est-ce qu'ils ont le succès escompté? Est-ce qu'ils ont la joie? Ils ont vraiment la paix? Vraiment le bonheur? Qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui ne sont pas de cette catégorie, c'est-à-dire ceux qui ne vont pas à l'église, qui ne connaissent pas Dieu, parfois en regardant ceux qui s'en vont à l'église, ceux qui se disent chrétiens, en regardant à leur vie, ils se posent la question de savoir si ça vaut la peine de suivre leur Dieu. Est-ce que ça vaut la peine vraiment de venir à Christ? Chers auditeurs et auditrices, écoutez. Au cours de cette série d'enseignements, vous allez comprendre la vérité. Parce que le succès d'un homme n'est pas le fruit du hasard. Donc le succès du croyant en Christ n'est pas aussi un hasard. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit qu'il va à l'église, qu'il est chrétien, qui signifie qu'il réussit automatiquement. Non, le succès est la résultante de nos comportements, de nos connaissances que nous mettons en application pour y arriver. Donc, il ne peut pas y avoir de succès, de réussite, si nous n'avons pas des réactions ou bien des comportements qui conduisent vers le succès. Si nous n'avons pas la connaissance qui peut nous aider à aller vers le but escompté, vers le résultat voulu. Parce que avoir du succès, c'est réussir, c'est avoir un résultat satisfaisant dans ce que l'on fait, ou bien dans le choix qu'on a opéré. Et s'il en est ainsi, vous comprenez que le succès n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat de l'ensemble des actes qu'on pose, des connaissances qu'on a. C'est la résultante de tout cela qui détermine le succès de chaque homme sur la terre. Et je vous parle ce jour-ci en disant en quoi réside le succès du croyant en Christ. Notons ceci, un vrai enfant de Dieu n'est pas un loser. Autrement dit, un vrai enfant de Dieu n'est pas un perdant. Il n'est pas le dernier de la société. Le vrai enfant de Dieu n'est pas à la merci du monde. Le vrai enfant de Dieu, celui qui est né vraiment de nouveau, je ne dis pas celui qui va à l'église, parce qu'on peut aller à l'église sans être de nouveau. On peut aller à l'église sans être un enfant de Dieu. Et c'est le problème que la plupart des gens ils ont. Vous regardez à ceux qui s'en vont à l'église pour pouvoir juger Dieu, pour pouvoir dire est-ce que Jésus là est digne de confiance. Mais c'est votre problème. Parce que tous ceux qui s'en vont à l'église, ils ne sont pas tous forcément nés de nouveau. Ils ne sont pas tous les enfants de Dieu. Et vous devez comprendre, avoir Christ dans sa vie, comme l'avons dit dans les émissions précédentes, c'est avoir Dieu en soi. C'est avoir la vie en soi. C'est avoir l'abondance en soi. Donc, vous ne pouvez pas avoir Jésus. Parce que lui-même le dit, dans Jean 10, verset 10, qu'il est venu pour nous donner la vie, et la vie en abondance. Vous savez que celui qui a la vie et qui a l'abondance, c'est un homme de succès. C'est une femme de succès. Et bien aimé dans le Seigneur, le problème que la plupart des gens ils ont, et la plupart des croyants même ils ont, et ils se posent la question de savoir, est-ce que cette affaire-là est vraiment vraie? Est-ce que cette affaire de chrétienté-là est vraiment vraie? Est-ce que l'affaire de Jésus-Christ-là, est-ce que c'est vraiment vrai? Bien aimé dans le Seigneur, je vais te dire que c'est plus vrai que le mot vrai même. Parce que Dieu, celui en qui nous avons cru, le Seigneur Jésus-Christ, est le Dieu du succès. Et comme nous sommes en train de voir en quoi réside le succès du croyant en Christ, c'est-à-dire que celui qui est en Christ, le croyant, celui qui a cru en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il peut faire son succès? Qu'est-ce qui peut le conduire? Quels sont les éléments qui peuvent le permettre de réussir dans la vie, de réussir dans ce qu'il fait, de réussir son foyer, de réussir dans ses activités? C'est ce que nous voulons voir. Et je vais vous dire ceci, que Dieu lui-même a montré que il y a beaucoup de personnes, son peuple, c'est-à-dire ceux qui sont à lui, il montre que beaucoup échouent parce qu'il leur manque la connaissance. N'oubliez pas, je vous ai dit que le succès est la résultante des connaissances que vous avez et du comportement que vous avez, des actes que vous posez par rapport à ce que vous connaissez. Or, dans Osée 4, verset 6, Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ici, Dieu passe par la bouche du prophète Osée pour souligner trois grandes vérités que nous devons connaître. Premièrement, Dieu dit mon peuple. Il n'y a pas dit le monde, il dit mon peuple. Donc Dieu reconnaît que ce sont des hommes qui lui appartiennent, qui ont des hommes qui croient en lui. Donc il dit mon peuple. Et Dieu dit que son peuple est détruit. Pour quelle raison? Parce qu'il manque la connaissance à ce peuple. C'est le problème que l'église a aujourd'hui. L'église, qui est le peuple de Dieu, est en train d'être détruite parce qu'il manque à l'église la connaissance. Beaucoup de personnes qui viennent à Christ échouent parce qu'il leur manque la connaissance. Beaucoup de foyers chrétiens sont disloqués parce qu'il leur manque la connaissance. Et bien aimé dans le Seigneur, et Dieu lui-même sait cela. Et c'est pourquoi il dit à Osée, il dit Osée, mon peuple est détruit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Première vérité, c'est que malgré que vous venez, vous êtes à Christ, malgré que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, si vous n'avez pas la connaissance de Dieu, la connaissance des choses de Dieu, vous allez mourir, vous allez périr, vous serez détruit. Et la deuxième partie de ce même verset de Osée 4, verset 6, c'est-à-dire que ce n'est pas que la connaissance qu'il faut n'est pas à la disposition du croyant. La connaissance qu'il faut à l'église, la connaissance qu'il faut à un homme, la connaissance qu'il faut à une femme, la connaissance qu'il faut à un croyant en Christ, pour réussir, cette connaissance est à sa disposition. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Ah! Donc ici, vous voyez, il dit, mon peuple est dépassé, il manque la connaissance. C'est une vérité maintenant. Il dit, c'est que la connaissance a la disposition, mais il ne veut pas connaître. Et puisqu'ils ont rejeté la connaissance, Dieu dit que lui aussi, il les rejette de sa sacerdoce. Bien-aimé dans le Seigneur, vous comprenez maintenant, chers auditeurs et auditrices, il ne suffit pas seulement de donner sa vie à Jésus-Christ pour penser qu'on peut réussir, pour dire que c'est terminé. Non. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il faut avoir la connaissance. Quelle connaissance? Il faut connaître ce Dieu en qui tu as cru. Il faut connaître sa parole. Deuxième chose. Il faut connaître aussi toi-même ce que tu es devenu en Christ. Et la réaction de tout homme, de toute femme, à ce qu'on concerne, cette connaissance-là, qui détermine le succès de l'homme et de la femme. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Première vérité. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Deuxième vérité. Quand vous rejetez la connaissance de Dieu, vous refusez de connaître Dieu, de connaître sa parole, de connaître ce que vous-même vous êtes devenu en Christ, vous ne pouvez pas prospérer, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas avoir du succès. Au contraire, vous serez dépouillé du sacerdoce. Vous serez rejeté par Dieu. Et troisième chose, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublie aussi tes enfants. Ah! Donc, lorsque on oublie, ici, ce n'est pas qu'on n'a pas raconté, on a raconté, mais on a oublié. On a oublié les principes par lesquels Dieu fait fonctionner les choses. On a oublié la loi de Dieu. Dieu dit ainsi aussi, ah, nos enfants aussi seront oubliés. C'est-à-dire, ceux qui seront engendrés par l'Église seront aussi oubliés. Osée 4, verset 6, nous fait sortir ces trois vérités. Mais gloire soit rendue à l'Éternel Dieu, qui ne veut pas que son peuple soit détruit, qui ne veut pas que nous rejetons la connaissance, qui ne veut pas que nous oublions sa loi. C'est pour cela, Dieu a pris soin de pouvoir nous laisser les Écritures. Et comme nous sommes en train de le voir, en quoi réside le succès du croyant en Christ? Et je vous dis ceci, je vous ai dit que le succès du croyant réside dans la connaissance, réside en quatre points qui permettent aux croyants en Christ de pouvoir réussir dans la vie, de pouvoir réussir leur marche chrétienne, de pouvoir réussir dans la vie conjugale, de pouvoir réussir dans leur profession. Il y a quatre choses principales. Première chose, la connaissance de Dieu. Celui qui veut réussir doit connaître Dieu. Premier élément. Deuxième chose, il ne suffit pas seulement de connaître Dieu, il faut connaître sa parole. Je suis en train d'énumérer les choses, nous allons les détailler tout à l'heure. Et troisième chose, si vous connaissez Dieu et sa parole, ça vous conduit à la troisième connaissance. La connaissance de votre identité en Christ. Lorsque vous avez ces connaissances-là, c'est la connaissance de Dieu, la connaissance de sa parole, la connaissance de votre identité en Christ. Maintenant, quelle est votre réaction vis-à-vis de tout cela? C'est votre relation vis-à-vis de ces trois éléments-là va déterminer votre succès. C'est ça la quatrième chose. Par la grâce de Dieu, nous pouvons avancer pas à pas pour que nous puissions comprendre. Donc, entamons le premier élément que toute personne doit saisir s'il veut réussir dans son foyer, dans sa profession, dans ses projets. Qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que la femme est appelée à faire? La première chose, c'est de connaître Dieu. Et les gens pourraient me dire, mais prophète Emmanuel, mais tu es en train de nous parler du croyant en Christ. En quoi consiste le succès? Est-ce que le croyant en Christ ne connaît pas Dieu? Lisons la parole de Dieu. Nous allons lire d'abord 1 Corinthiens 15, versets 33 à 34. Nous lisons. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc ici, on met en garde le croyant. On met en garde le peuple de Dieu. De ne pas se laisser à la tromperie. Et cette tromperie-là peut venir de qui? Peut venir de la mauvaise compagnie. C'est-à-dire que le véritable croyant en Christ doit savoir avec qui marcher. Les mauvaises compagnies existent. Les bonnes compagnies existent. Et la parole de Dieu montre que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Donc, un vrai enfant de Dieu, le croyant en Christ, a déjà acquis un certain nombre de choses qui peuvent lui permettre d'avancer. Il a certains éléments, certaines connaissances, certaines vérités que le monde n'a pas. C'est déplorable de voir que les gens me disent, « Prophète, mon meilleur ami, c'est un païen. Mon confident, c'est un païen. » Un païen, quelqu'un qui ne connaît pas Christ, est ton confident. Fais attention. La Bible dit, « Ne vous y trompez pas, les mauvais compagnons corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point. » Donc, si vous avez les mauvais compagnons avec vous, si vous fréquentez des gens douteux, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui rejettent Christ, vous devez faire beaucoup attention. La part de Dieu vous dit de faire marche arrière. Revenez à vous-même. Revenez à votre amour, à Dieu, comme il est convenable. C'est-à-dire que c'est ce qui est bien pour vous, ça. Et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Vous entendez? Car quelques-uns, c'est là où je voulais arriver. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Et je le dis à votre honte. Vous savez, ce qui m'étonne dans ce passage-là, nous sommes dans 1 Corinthiens 15, verset 34. L'apôtre souligne que quelques-uns parmi les Corinthiens, parmi le peuple de Dieu, ne connaissent pas Dieu. Mais ça m'étonne. Parce que allez-y dans 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1, lisons le verset 4 à 5 et vous allez comprendre pourquoi ça m'étonne. Gérant, c'est l'apôtre Paul qui dit Paul Corinthiens. Il dit, gérant à mon Dieu de continuer action de grâce à vos sujets. Au sujet de qui? Au sujet des Corinthiens. L'apôtre Paul dit, il rend continuellement d'action de grâce au sujet des Corinthiens. Pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Donc Paul dit, il rend grâce continuellement à Dieu pour la grâce de Dieu qui a été manifestée envers les croyants en Christ à Corinthe. Au verset 5, il dit, car en lui, c'est-à-dire en Christ, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Ah, vous entendez? Paul dit ici que l'église de Corinthe, à cause de la grâce qu'ils ont reçue de Dieu, ils ont été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Donc, il y a les richesses dans la parole de Dieu et il y a les richesses dans la connaissance. Et il dit, et le témoin de Christ, verset 6, et le témoin de Christ, ayant été solidement établi parmi vous. Le verset 7, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, les Corinthiens, Paul rend grâce à Dieu pour la faveur, pour la grâce qu'ils ont reçue en Christ, au point où ils ont été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, à cause du témoignage de Christ qui a été établi en leur sein, au point où aucun don ne manque aux Corinthiens. Ils ont tous les dons. Mais comment maintenant? Au chapitre 15, au verset 34, Paul dit, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Donc vous comprenez, ce n'est pas tous ceux qui s'en vont à l'église. Ce n'est pas tous ceux qui sont venus à Christ qui connaissent Dieu. Et c'est là le problème. Et Jésus-Christ, lui-même, il l'a souligné. Il l'a souligné dans Jean 7, verset 28 à 29. Jean 7, verset 28 à 29. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Jésus enseigna dans le temple à Jérusalem. Et les docteurs de la loi, les religieux, ceux qui viennent pour adorer Dieu, ils étaient tous assis là et ils écoutaient Jésus. Et Jésus leur dit, vous savez qui je suis. Et naturellement, vous me connaissez et vous savez d'où je suis venu. Et il dit, mais je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai. C'est-à-dire que celui qui m'a envoyé est vrai et réel. Ce n'est pas une imagination. Et vous ne le connaissez pas. Donc Jésus dit, vous me connaissez moi, mais celui qui m'a envoyé, qui est l'éternel Dieu, vous-même là, qui se disent que adorateurs de ce Dieu, qui se disent peuple de ce Dieu-là, vous ne le connaissez pas. Au verset 29 de Jean 7 là, il dit, moi je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. Vous voyez la différence? Jésus-Christ a eu le succès, parce que lui, il connaît l'éternel Dieu son Père, et il connaît aussi son identité. Il dit aux religieux par contre, vous l'adorez, mais vous ne le connaissez pas. Vous l'adorez, mais vous ne le connaissez pas. Mais il dit, moi, je le connais. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc Jésus, il dit clairement que lui, il connaît Dieu. Et c'est pour cela que Jésus a eu du succès. Il connaît son Père, l'éternel Dieu. Et il sait qui il est lui-même. Et vous allez voir que son comportement dans la marche, son comportement pendant qu'il était physiquement sur la terre, est beaucoup plus lié à cette connaissance de sa personne et de la connaissance de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que nous allons voir au cours de cette série d'enseignements dont je suis simplement en introduction, où j'ai attaqué seulement le premier élément, où je suis mis en introduction de ce premier élément, à savoir connaître son Dieu. Si tu veux avoir du succès, chers auditeurs et auditrices, si tu veux réussir, chers frères et sœurs en Christ, il te faut nécessairement connaître qui il est et ce de quoi il est capable. Chers auditeurs et auditrices, la première chose qui conduit l'homme au succès, à la réussite dans la vie, c'est la connaissance de Dieu. Sachez de Dieu, c'est que l'Éternel, notre Dieu, est le Dieu tout puissant. Première connaissance que vous devez avoir de Dieu, c'est que quand on parle de Dieu, de l'Éternel Dieu, ce qu'on appelle Yahweh, Jéhovah, vous devez savoir que c'est lui qui est le Dieu tout puissant. Genèse 17, verset 1. Genèse 17, verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » À l'âge de 99 ans, Dieu est venu vers Abraham. Abraham, à l'âge de 75 ans, a rencontré Dieu et il a cru en Dieu. Et il a continué sa marche, il a démarré sa marche avec Dieu à 75 ans. Ici, à 99 ans, ça veut dire 24 ans après que Abraham a rencontré Dieu, il a abandonné les fétiches. Il a quitté la tradition de ses pères. Il a quitté l'idolâtrie nationale. Il a quitté l'idolâtrie de son ethnie pour se donner au vrai Dieu, pour pouvoir l'adorer. La Bible dit, Abraham ne croisait pas marcher avec ce Dieu-là à cela de 75 ans. À 99 ans maintenant, Dieu vient maintenant pour faire un point avec Abraham. Et dans la marche avec Abraham, Dieu dit à Abraham, après 24 ans de marche, il dit, Abraham, marche devant ma face et sois intègre, car je suis El Shaddai, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant. Donc, vous devez savoir que l'Éternel Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Abraham, jusque-là, a connu Dieu en tant qu'Elohim. Il a connu en tant que l'Éternel. Mais il ne connaît pas encore Dieu en tant que le Tout-Puissant. Voilà pourquoi, à des moments donnés, Dieu ayant lui a fait la promesse de lui donner la progéniture, à un moment donné de la marche, on va lui proposer une solution pour pouvoir avoir de progéniture. Et Abraham a accepté cette proposition sans consulter ce Dieu-là qui l'a fait sortir. Parce qu'il pensait que peut-être c'est Dieu était en train de lui parler et c'est lui qui n'avait pas compris. Et que c'est le moyen par lequel il faut y arriver. Et là, peut-être Abraham pensait que lorsque Dieu il dit quelque chose, il faut aider Dieu pour avoir l'accomplissement. Comme beaucoup de personnes vous le dites. Et c'est du mensonge. Ils disent que Dieu lui-même a dit, il faut mettre d'abord sur le genou et Dieu te mettra ça sur la tête. Amène la chose, le fardeau au genou et maintenant Dieu va te mettre ça sur la tête. Quel verset biblique a dit ça? Vous devez me chercher ça. Si vous n'avez pas trouvé, alors reconnaissez qu'on vous a trahi. Aucun verset de la parole de Dieu ne dit pas, il faut mettre sur les genoux et Dieu va te mettre ça sur la tête. Et si toi-même tu as la capacité de mettre la chose sur le genou, toi-même mets ça sur la tête. Mais il faut comprendre que l'Éternel Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, est le Dieu Tout-Puissant. Il n'a pas besoin de votre aide. On n'aide pas Dieu. Au contraire, c'est Dieu qui vient au secours de l'homme. L'homme ne peut pas venir au secours de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens, vous n'avez pas besoin de défendre la cause de Dieu. Dieu est le Tout-Puissant. Non seulement il défend sa cause, mais c'est lui qui défend la cause de son peuple. La cause de ceux qui placent leur confiance en lui. Non, ceux qui tuent au nom de Dieu. Ceux qui font des choses au nom de Dieu. Alors, il faut tuer les mécréants. Il faut tuer. Dieu vous a demandé ça là. Laissez Dieu. Vous n'avez pas besoin de défendre la cause de Dieu. Dieu lui-même se défend. J'ai l'habitude de dire à mes enfants, les gens peuvent me critiquer, dire n'importe quoi sur moi. Ne réagissez pas. Ne me défendez pas. Parce que je sais celui qui m'a appelé et celui qui m'a établi. C'est à lui de me défendre. Et c'est lui qui le fait. Voilà pour. Et j'aime lorsque c'est Dieu qui vous défend. Parce que lorsque Dieu vous défend, il va vous élever. Et ceux qui vous critiquent, ceux qui vous attaquent, ils sont toujours en arrière. Bien-aimés dans le Seigneur, Abraham a écouté la voix de Sarah. Et il est parti prendre Agar pour pouvoir donner une progéniture. Pensant qu'il faut aider Dieu. C'est quoi Dieu est venu vers lui, il dit Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Moi je suis El Shaddai, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant. Abraham ne connaissait pas Dieu comme ça. Le Dieu Tout-Puissant, ça signifie quoi? Ça veut dire le Dieu Tout-Capable. Le Dieu Tout-Suffisant. Celui qui dit et qui accomplit ce qu'il a dit, qui n'a pas besoin d'aide. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens que les bénévoles doivent quand même réfléchir. Nous avons quand même réfléchi pour ne pas appeler n'importe qui, n'importe quoi à Dieu. Parce que Dieu est supposé nous protéger. Dieu est supposé nous élever. Dieu est supposé nous bénir. Dieu est supposé défendre nos causes. Mais si c'est nous qui devons protéger Dieu, ça veut dire qu'il n'est plus Dieu. Regardez les modes de terre avec lesquels vous établissez, on établit les fétiches. L'argile que l'on prend pour la terre que l'on prend pour ériger des fétiches et qu'on appelle Dieu. Vous obligez vous-même encore de construire de petites cases. Pour ces dieux-là, pour les protéger. contre quoi? Contre l'eau, contre la pluie. Parce que si vous ne les protégez pas avec des cases là, quand l'eau, quand la pluie va descendre là, votre Dieu là, qui était fait avec l'argile, est fait avec la latérite, va devenir de la boue. Donc la pluie seulement suffit pour emporter cette divinité là. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs et auditrices, le véritable Dieu, le vrai Dieu, il s'appelle Yahweh. Il est le tout puissant, le Dieu tout puissant. C'est-à-dire, c'est lui qui n'a besoin d'aide de personne. C'est lui qui a les moyens de sa politique. C'est lui qui dit et qui fait. Voilà pourquoi toi, le croyant en Christ, est-ce que tu connais ton Dieu en tant que El Shaddai? Est-ce que tu le connais en tant que le Dieu tout suffisant, le Dieu tout capable? Si tu le connais comme ça, ça doit changer ton comportement. Ça doit changer ta manière de faire. L'éternel Dieu, beaucoup ne le connaissent pas. Si tu veux avoir le succès, première chose, tu dois connaître ton Dieu. Et je suis en train de te montrer le Dieu dont nous parlons là. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre papa aujourd'hui à nous aussi, qui avons reçu Jésus-Christ de Nazareth en tant que sauveur soeur personnel et qui marche avec lui. Ce Dieu qui est devenu un père pour nous, il est El Shaddai, le Dieu tout puissant. C'est pour ça que il dit à Moïse de dire à son peuple, dans Deutéronome 10, verset 17, ce que Dieu lui-même dit par rapport à lui-même et qu'il a recommandé à Moïse. Il dit ceci, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux. Vous entendez? Le Tout-Puissant est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point d'acception des personnes et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous entendez? L'Éternel Dieu là est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Même si vous avez mis des dieux, aucun de ces dieux ne peut pas égaler l'Éternel Dieu. C'est lui qui est le Seigneur des seigneurs. C'est-à-dire que le propriétaire des propriétaires. C'est la plupart de ceux qui se disent propriétaires sur la terre, ce n'est que des propriétaires passagers. Le seul unique propriétaire de toutes choses, c'est l'Éternel Dieu. Et le Dieu, ce Dieu est le Dieu grand, le Dieu fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présent. Ce Dieu-là, il fait mieux du bien à l'orphelin. L'orphelin, tu entends? Il fait du bien à la veuve. Il fait du bien à l'étranger. Il est domaine de la nourriture et des vêtements. Dieu est capable. Notre Dieu est le Dieu des capacités. C'est le Dieu tout capable, le Dieu tout suffisant. Nous sommes contraints par le temps. Nous sommes obligés de nous arrêter là. Sans qu'on n'ait pas encore, on n'est pas allé loin. À ce qu'on est en train de voir une série d'enseignements sur en quoi réside le succès du croyant en Christ. Et nous sommes en train de voir le succès du croyant en Christ réside dans certains éléments, dans quatre choses principales qu'il faut connaître. Donc la première chose est la connaissance de Dieu. Donc la première, connaître Dieu. Si tu es croyant en Christ, tu dois connaître Dieu, qui il est, ce de quoi il est capable. Et ici, nous avons montré que l'Éternel Dieu est le Dieu tout capable, c'est-à-dire le Dieu tout suffisant, le Dieu El Shaddai, celui qui n'a pas besoin d'aide, mais qui fait toutes choses, qui défend sa cause, qui défend la cause de ceux qui s'accrochent à lui, le Dieu qui défend les orphelins, qui défend la veuve, qui défend l'étranger et qui les donne même de vêtements et de nourriture. Le Dieu fort, terrible, redoutable, le grand Dieu, celui qui est le Dieu des dieux, le Saint des saints, c'est lui qui est Yahweh, c'est lui qui est l'Éternel, et c'est lui qui est notre Père. Pour nous qui avons reçu Jésus-Christ, c'est ça, c'est lui qui est notre Père. Et Jésus lui dit que, il le connaît, mais les religieux ne le connaissent pas. Et le Saint-Esprit va dire à l'apôtre Paul que les Corinthiens qui ont eu la grâce et de venir à Christ, et qu'ils ont reçu tous les dons, c'est-à-dire qu'aucun don ne leur manque, et qui ont été même enrichis de toutes les connaissances, de toutes les richesses concernant la parole et la connaissance, il dit quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Et le problème de l'échec de la plupart des croyants, de la plupart des chrétiens aujourd'hui, réside dans cela. Ils ne connaissent pas Dieu. Si tu veux réussir dans ta marque chrétienne, si tu veux réussir dans la vie, première chose, il faut connaître Dieu. C'est-à-dire, il faut savoir qui est Dieu, de quoi il est capable. Par la grâce de Dieu, nous allons poursuivre cet enseignement dans les jours à venir. Que l'Éternel de vous bénisse et que sa faveur repose sur vous. Amen.
Vous venez de suivre la puissance de la parole de Dieu. Elle est animée par le prophète Adankon Emmanuel de la Mission internationale pour la restauration humaine et l'évangélisation. L'église est située à Akwakwa, en face de Ciné Concorde, dans la Von appelée Von Sokodo. Voici nos programmes, mercredi et vendredi. À partir de 19h30, cours biblique. Dimanche, premier culte en français de 8h à 10h30. Deuxième culte en goût de 10h30 à 13h. Les derniers dimanches et les jours de fête, le culte est unique, accompagné de témoignages à partir de 9h. La puissance de la parole de Dieu, quand Dieu bénisse ce que vous avez écouté.